Je pense. C'est un honneur d'être avec vous aujourd'hui, spécialement aujourd'hui. C'est un honneur d'être avec vous aujourd'hui, et spécialement aujourd'hui. Le message que je vais partager, je vais le faire en soumission à vos anciens qui m'ont demandé de parler de la souffrance, pas spécifiquement du deuil, de la souffrance plus globalement comme la Bible en parle, et donc ça inclut le deuil. Je voudrais aussi parler par obéissance envers Dieu, même si je vais donner quelques exemples concrets de ma propre expérience de douleur, ne pas donner des opinions, ne pas tirer de conclusions à partir simplement de ce que j'ai vécu ou que j'ai vu vivre autour de moi. Mais je vais essayer d'obéir à Dieu et de dire ce que la Bible dit. En fait, si vous êtes lecteur, sinon assidu, du moins, si vous êtes lecteur de la première épître de Pierre, vous n'avez pas besoin du message, vous pouvez rentrer manger. on va beaucoup lire dans 1 Pierre. Je vais commencer au chapitre 2 et au verset 20, 21, etc. Parce que, bien entendu, tout ce que la Bible a à nous dire concernant nos souffrances, tout découle, tout ce qu'elle nous dit vient de ce que Jésus a montré. Et de toute façon, c'est comme ça. Nous sommes disciples de Jésus, mais nous sommes ses membres. Il est en nous et nous sommes en lui. De sorte que, quel que soit le sujet qui nous préoccupe, le modèle sera toujours en Jésus. Et ce que Dieu nous dira reviendra toujours à nous éclairer ce que Jésus a fait, ce que Jésus a été. Voilà. En vérité, il n'y a que ça qui nourrit. Ce qui nourrit le chrétien, parce qu'il est membre de Christ, ce qui le nourrit, c'est ce que Jésus a été et ce que Jésus a fait, a dit. Alors, 1 Pierre, chapitre 2, verset 20. Quelle gloire en effet y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir péché ? Mais, donc on y reviendra après là-dessus, mais si tout en faisant le bien vous supportez la souffrance, c'est une grâce devant Dieu. Donc il s'agit de nos souffrances à nous. C'est à cela en effet que vous avez été appelés, à supporter la souffrance en faisant le bien. Parce que, et voilà, donc les souffrances de Christ, parce que Christ lui aussi a souffert pour vous et vous a laissé un exemple. Vous a laissé un exemple. Donc, il y a quelque chose qui est présent, que Christ a laissé, voilà, qu'on trouve dans l'Écriture et que l'Esprit nous redit tout le temps. Vous a laissé un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de fraude. Donc c'est une citation d'Ésaïe 53. Lui qui, insulté, ne rendait pas l'insulte, souffrant, ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Voilà, et tout au long du message, c'est ça qu'on va avoir j'ai failli dire en arrière-plan, non, en avant-plan, devant nos yeux. Voilà, il n'a pas commis de péché, dans sa bouche il n'y a rien eu de faux. S'il insultait, il ne rendait pas l'insulte, souffrant, ne faisait pas de menaces. C'est-à-dire, ne souffrait pas mal. Vous savez, même ceux qui ne connaissent pas Dieu le disent. La souffrance peut nous rendre mauvais. Et d'autres personnes, la souffrance les rend meilleurs. Et évidemment, toute la différence. Donc certains souffrent mieux que d'autres. Là, je n'ai pas dit qu'ils souffrent plus. Oui, certains souffrent plus que d'autres aussi. Mais et si c'est bien précisé que le fait de souffrir, eh bien, il ne faisait pas de menaces, alors ça peut être des menaces de vengeance ou peu importe, hein, il ne faisait pas de menaces, ça montre bien que la souffrance peut générer des mauvaises réactions. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il faisait, le Seigneur? Et pourtant, c'est le Seigneur, c'est le Fils de Dieu. Mais comme il s'est fait vrai homme, si vous voulez, il n'a pas fait semblant d'être un homme. Il s'est fait vraiment homme, donc il s'en remettait à celui qui juge, justement. C'est-à-dire, il ne se posait même pas comme juge des injustices qu'il subissait, lui, le Fils de Dieu. Donc, a fortiori, nous. Voilà. Et donc, vous savez, le Nouveau Testament montre clairement que Christ a souffert et montre clairement qu'il n'a pas souffert seulement au moment d'être crucifié. Bien entendu que ses principales souffrances, les plus énormes, c'est les souffrances expiatoires quand il endosse nos péchés. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'en peut plus au jardin de Gethsémané et qu'il dit, si c'est possible, de ne pas le faire. Et la fameuse coupe, c'est la coupe de la colère de Dieu qui vient sur le péché. Et comme il endosse nos péchés, elle vient sur lui. Donc ça, c'est les souffrances expiatoires. C'est celle auxquelles on pense le plus souvent quand on dit que Christ a souffert. Et on fait bien. On fait bien de penser à celle-là le plus souvent. Cependant, le Nouveau Testament est aussi clair pour dire que ces souffrances-là, nous ne pouvons pas les imiter. Et il ne nous est pas demandé de les imiter. Par nos souffrances, nous n'expions rien du tout, ni pour nous-mêmes, ni pour les autres. Donc, les souffrances d'expiation, expier, ça veut dire porter la peine d'une faute, ça veut dire même purifier la faute en portant la peine qu'elle mérite. Ça, c'est le sens du mot expier, purifier une faute en portant la peine, le châtiment qu'elle mérite. Donc, les souffrances expiatoires ne sont pas pour nous. Donc, quand nous avons lu « Il a souffert pour vous et vous a laissé un exemple », ce n'est pas l'expiation qui est un exemple, parce que celui-là, on n'aura jamais à l'imiter. Mais c'est aussi d'autres souffrances. Alors, bien entendu, sa patience et sa confiance en Dieu pendant qu'il était maltraité, flagellé, etc., donc qui fait partie aussi des souffrances de la croix, mais Jésus a souffert déjà avant de beaucoup de choses. Alors, par exemple, vous avez Hébreux 12, verset 3, qui dit « Considérez celui qui a enduré de la part des pécheurs, une telle opposition contre sa personne. » Et des fois, c'est ce qui nous fait le plus souffrir, l'opposition, l'hostilité, l'injustice, les calomnies, ou que sais-je, etc. Et encore un verset, Hébreux 5, simplement un verset qui est connu aussi, mais qui, je ne vais pas le commenter, simplement le lire. Il affirme si fort que Jésus a souffert vraiment et qu'il était vraiment mal quand il souffrait. C'est lui, un Christ, qui, dans les jours de sa chair, offrit à grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Il ne faut pas s'imaginer que parce qu'il était fils de Dieu, il n'a souffert, vous voyez, qu'en surface, que, si vous voulez, que ça ne le touchait pas, que ça ne le brisait pas. Non, il a souffert vraiment. Et c'est pour ça aussi que nous, quand on souffre, on n'a pas besoin de sublimer. Il ne faut pas sublimer. Il ne faut pas dire, non, mais moi je suis chrétien, Jésus est en moi, donc la souffrance, ça ne me touche même pas. Enfin, vous voyez, il ne faut pas spiritualiser à outrance. On n'est pas non plus dans le déni. Moi, je suis un homme de foi, donc je ne souffre pas. Voilà. Non, si je souffre. Ah oui, je souffre. Donc, parlons maintenant un petit peu de notre foi en l'Évangile et de nos souffrances. L'Évangile met fin à beaucoup de souffrances. Des gens sont guéris avant même de se convertir. parce que l'évangile est vrai et que celui qui prie pour eux, l'évangile est au-dedans de lui. L'évangile met fin à beaucoup de souffrances, à beaucoup d'oppressions, à beaucoup de misères. A fortiori, quand les gens se convertissent, la vie de couple n'est pas la même, le rapport aux parents, aux enfants n'est plus le même, le rapport au travail, avec l'employeur, avec les voisins. Donc l'évangile est de nature, l'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle que le règne de Dieu est déjà proche, est déjà au milieu de nous, même s'il est encore à venir, mais il est déjà là. L'évangile est de nature à mettre fin à beaucoup de souffrances. Mais le Nouveau Testament est parfaitement clair, l'évangile ne met pas fin à toute souffrance ici-bas. En vérité, là je vais faire une petite parenthèse, quand j'entends vos louanges, vos témoignages, vos prières, sincèrement je me suis dit sur ma chaise, mais il n'y a pas besoin que je fasse ce message. Mais bon, puisque j'ai fait le déplacement. Vous savez, quand on dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, cette phrase, donc c'est une prière, c'est des paroles de prière que Jésus nous a données et nous a dit de dire. Et c'est une prière qui est centrale pour notre rôle de démonstration du règne présent, déjà maintenant. Voilà. Cependant, comme toutes les phrases de la Bible, elle doit avoir pour moi le sens qu'elle avait pour celui qui l'a dite. Et donc, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, ne signifie pas que, au présent, avant les nouveaux cieux et la nouvelle terre, donc ne signifie pas que sur cette terre-ci, tout sera comme au ciel. Alors pourquoi ? C'est-à-dire, mais c'est ton avis ? Non, ce n'est pas mon avis. La phrase doit signifier ce qu'elle signifiait pour celui qui l'a prononcée, c'est-à-dire pour Jésus. Jésus a promis un impact absolument glorieux, immense. Et il a dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde habité entier. Et prêchée signifiant, démontrer. Prêcher inclut démontrer. Donc les gens voient les choses et changent. Donc il y a un impact immense qui est donné dans le monde habité entier. Ça c'est Matthieu 24, verset 14. Et au verset 12, il dit, à cause des progrès, à cause de l'augmentation de l'iniquité, c'est-à-dire de la désobéissance à Dieu, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et il y a, vous savez, Apocalypse 22, verset 10 par exemple, qui dit que celui qui est souillé se souille encore. Que celui qui est saint soit encore sanctifié. Jésus n'a pas promis pour la terre, pour cette terre-ci, avant le retour de Jésus, n'a pas promis la fin, la disparition du mal, ni la disparition des souffrances. Ça fait que c'est avec un cœur humble qu'on dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et vous savez, si on répète un peu trop, on ne va pas chercher plus loin, hein. Au ciel il n'y a pas de douleur, donc il ne faut pas qu'il y ait de douleur sur la terre, ce n'est pas normal, si tu as une douleur, ce n'est pas normal, ce n'est pas biblique. Voilà. On va plus loin que ce qui est écrit, et on donne à une phrase de Jésus un sens que lui ne lui a pas donné. Voilà. Alors pour autant, bien entendu qu'on va pas non plus, il faut pas affaiblir non plus les paroles de Jésus. Voilà. Donc même l'expression « changer le monde » doit avoir un sens que la Bible valide. En deux, trois minutes, je voudrais rapidement regarder quelques catégories de souffrances. On a dit que l'évangile met fin à beaucoup de souffrances, mais pas à toutes. Il en occasionne de nouvelles. La persécution. Il y a des souffrances qu'on n'aurait pas. Il y a des souffrances qu'on n'a plus parce qu'on est en Christ, et il y a des souffrances qu'on n'aurait pas si on n'était pas en Christ. Alors, j'y reviendrai. Désolé, hein. Alors bien sûr, il y a des souffrances qui disparaissent avec l'évangile. Hein. Je l'ai dit déjà pour les non-croyants, s'ils sont guéris ben, de quelque chose, ou s'ils sont consolés, ou s'ils sont juste compris et aimés par leurs voisins chrétiens, il y a des souffrances qui disparaissent. Voilà, pour nous aussi. Après, bien entendu, toutes les souffrances qui s'enracinent dans les péchés passés, elles n'ont ben, la honte, la peur de Dieu, des relations pourries, bon, tout ça, avec l'évangile, ça disparaît. OK ? Même si des fois, ça prend du temps, hein, que sais-je. Voilà. Il y a aussi des traumatismes qu'on a subis dans le passé et qui perdurent, mais qui doivent disparaître. Et si vous voulez, c'est pas la normale qu'elle perdure. Alors, j'en sais, moi, si j'ai souffert d'être orphelin ou simplement si j'ai une mentalité d'orphelin, c'est pas normal que ça. Ce n'est pas la volonté de Dieu que ça perdure. Donc, il y a de la compassion et de la compréhension si ça perdure. Il n'y a aucune accusation vers le frère ou la sœur si ça perdure, mais la pensée de Dieu, la volonté de Dieu, c'est que ça prenne fin. Ok. Après, donc tout ça, c'est des souffrances qui doivent partir. Et il est pas, entre guillemets, si vous voulez, il n'est pas question de les tolérer, de les autoriser dans ma vie. D'accord. Ensuite, il y a des souffrances présentes que Dieu ne veut pas du tout, pas du tout. Mais qui sont dus à des péchés présents. Alors les miens. Hein, Paul dit à Timothée, il y en a qui, par amour de l'argent, se sont infligés à eux-mêmes bien des tourments. Et là, il ne parle pas que des non-chrétiens. Donc là, c'est, vous voyez, Dieu ne le veut pas. Mais en attendant, c'est... Voilà. OK. Ou bien Pierre en parle justement dans le chapitre 4 de sa première lettre. Il dit, si vous souffrez parce que vous pratiquez l'ingérence, vous vous mêlez des affaires d'autrui, et vous souffrez à cause de ça, ce n'est pas juste. Mais c'est vous qui vous le créez. Ça, c'est moi qui le rajoute, pardon. Hein, ce n'est pas écrit en ces termes, mais c'est implicite. Voilà. De toute façon, si tu es ingérant, ben, tu vas avoir des retours. Hein, on va te jeter. Et à juste titre. À juste titre. OK. Voilà. Après, il y a les souffrances que les péchés d'autrui me causent. Alors, je vais prendre un exemple un peu gros, mais une infidélité conjugale que je subis, c'est une souffrance que Dieu ne veut pas. Donc, je ne vais pas à 100 à l'heure dire « je ne souffre pas, je suis chrétien, blablabla ». Il faut quand même le traverser, ça. C'est une épreuve qu'il faut la traverser. Mais justement, on la traverse, c'est-à-dire qu'on avance vers la sortie. Et on reçoit un réconfort de Dieu et aussi on pardonne. Ce qui nous met dans de meilleures dispositions aussi pour être réconfortés. Mais on pardonne simplement pour obéir à Dieu. Voilà, encore des choses qui ne doivent pas rester. Après, il y a des souffrances de toutes sortes. Hein, ça peut être physique, morale, peu importe. Il y a des Hébreux 12. Est-ce que vous êtes des lecteurs assidus de Hébreux 12 La correction, Dieu nous corrige. Mais attention, c'est bien marqué, il frappe de la verge, c'est-à-dire c'est le martinet, pour parler français. Même si c'est interdit par la loi, ou bientôt, mais lui, il fait quand même. Alors, qu'est-ce que c'est les corrections ? Alors, comment, c'est pas compliqué. C'est Dieu, si vous voulez, les corrections, ce sont des coups durs. Un coup dur, une privation, un coup, alors ça peut être une maladie, effectivement, ça peut être même un accident, ça peut être n'importe quoi, ou des toutes petites choses, un arrêt, quelque chose. C'est des coups durs, petits ou terribles, que Dieu me montre de prendre comme un coup d'arrêt venant de lui. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui va arriver, qui va dire, oh, vu ce que tu dérouilles, vu toutes tes épreuves et tes souffrances, il doit y avoir des poussiérages à faire chez toi. Non, personne ne me dit que c'est une correction. C'est Dieu qui me le montre, c'est le Père. C'est le Père dont je suis enfant légitime qui dit. Et je reviendrai sur cette idée que c'est lui qui parle, que c'est à lui, c'est la clé. Si vous voulez, souffrir bien, c'est avoir compris que c'est à Dieu de me parler de mes souffrances. Voilà. En gros, si vous retenez que ça, c'est... Mais je le redirai ça, en plus. Et bien sûr, ces souffrances-là, il faut les accepter, si vous voulez. Les corrections, il ne s'agit pas de dire non, je refuse, au nom de Jésus, je refuse, au nom de Jésus, je refuse. Mais attends, c'est le Père de Jésus qui est en train de te corriger. Il dit, tu refuses au nom de Jésus. Donc celles-ci, il faut les accepter. Elles sont preuves de filiation et elles produisent un bon fruit. Un fruit paisible de justice. C'est-à-dire qu'on devient super beau à la sortie. Mais comme un enfant dont le pantalon a été dépoussiéré. Et il se calme. Et puis, il y a des souffrances qui sont selon la volonté de Dieu et qui ne sont pas des corrections. Et parce que la Bible emploie l'expression selon la volonté de Dieu. Et donc, on va y aller. Est-ce que vous voulez bien que je lise avec vous? Je ne sais pas, depuis hier, je ne sais pas si je le fais comme ça ou si je ne le fais pas comme ça. Est-ce que je vous lis à peu près tous les versets dans la première épître de Pierre? Parce que chacun des chapitres a un mot sur la souffrance. Moi, je vais le faire. Je ne le fais pas, je ne sais pas si je... Donc, 1 Pierre 1, versets 4-5, il dit il y a un héritage qui ne peut pas se corrompre, qui vous est réservé à vous. À vous... Verset 5, qui êtes gardés dans la puissance de Dieu, comme dans un abri, sa puissance est notre forteresse. Vous êtes gardés en la puissance de Dieu par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Voilà tout ce qui est parfait. Vous en tressaillez d'allégresse de cet héritage et de cette révélation parfaite du salut. De ce qu'est le salut, vous en tressaillez d'allégresse, quoi que vous soyez maintenant pour un peu de temps, puisqu'il le faut, affligé par diverses épreuves. Ensuite, chapitre 2, verset 18, on y était là tout à l'heure, mais on remonte un peu à 18-19. Serviteurs aujourd'hui employés, on dirait, soyez en toute crainte soumis à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont difficiles. Car c'est une grâce que de supporter des peines par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Donc là, ce n'est pas des corrections, ce n'est pas moi qui l'ai provoqué, c'est... Vous voyez, ça ne résulte pas de mes péchés passés, c'est juste... Voilà. Quelle gloire en effet y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir péché? Mais si, tout en faisant le bien, vous supportez la souffrance, c'est une grâce devant Dieu. C'est à cela, en effet, que vous avez été appelés. À supporter la souffrance... avec la grâce de Dieu. Ça fait partie de notre appel. Ce n'est pas une anomalie. Il n'est pas toujours anormal de souffrir. On l'a dit, beaucoup de souffrances sont anormales et il faut qu'elles prennent fin, on les refuse. Et on ne se laisse pas glisser dedans. Mais d'autres sont normales. Ensuite, chapitre 3, verset 13. Un verset qui est encourageant là. Qui donc vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien? J'ai une passion pour le bien, donc personne ne me fera aucun mal. D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, donc finalement, si, ça arrivera quand même. La normale serait que ça n'arrive pas. Si on fait le bien. Et les apôtres de Jésus, ils ont vécu les deux. Ils ont vécu, c'est marqué dans Acte 5, le peuple les louait hautement. On faisait leur éloge. Mais c'est aussi marqué qu'ils ont été battus et que Étienne est mort lapidé, et etc. Donc, d'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, heureux seriez-vous. Ensuite, chapitre 4, versets 1 et 2. Ainsi donc, puisque Christ a souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les désirs humains, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Encore chapitre 4, verset 12. Et là, je vais vous faire la version à peu près littérale du verset 12. « Ne trouvez bien aimé, ne trouvez pas étrange la fournaise qui arrive parmi vous pour vous éprouver comme si c'était quelque chose d'étrange. » Donc il y a une répétition du mot qui n'apparaît pas en français, hein, ne soyez pas surpris, une répétition du mot « ne trouvez pas étrange ». Ne vous dites pas « mince, c'est pas normal, je ne suis plus dans le bon chemin, je dois être ailleurs, je ne suis plus dans la volonté de Dieu. » Voilà. Au contraire. Alors, ces choses me touchent, pas premièrement parce que j'ai aussi souffert dans ma vie et je souffre aussi dans ma vie, mais premièrement parce que quand je lis ces paroles et quand je les dis, du genre, ce que je vais lire là, « Réjouissez-vous de participer aux souffrances de Christ. Hein? » ou bien tout à l'heure, « C'est à cela que vous avez été appelés. » Quand je dis ces choses, je suis conscient de dire quelque chose de grand qui me dépasse, quelque chose que je vis en partie, mais que je comprends peu. En tout cas, ne trouvez pas étrange, au contraire, réjouissez-vous de participer aux souffrances du Christ, afin de vous réjouir aussi avec allégresse lors de la révélation de sa gloire. Réjouissez-vous de participer aux souffrances de Christ. On a bien dit que les souffrances expiatoires, on n'y participe pas, mais toutes les autres souffrances, elles sont dites celles de Christ. Pourquoi ? Parce qu'en s'incarnant véritablement, il a tout souffert, il a été tenté comme nous en toutes choses. Donc, alors ça peut être le mépris, d'être calomnié, d'être battu, d'être moqué, de ne pas être cru, d'être trahi, de que sais-je, etc. Sans compter toutes les souffrances physiques, d'épuisement, il s'endort de fatigue dans la barque, mais il est épuisé, etc., etc. Bon, parlons pas des 40 jours de jeûne dans le désert. Bon, voilà, réjouissez d'une certaine manière. Toutes nos souffrances, sauf celles dues à nos péchés. Hein? Mais d'une certaine manière, toutes nos souffrances sont participation aux souffrances de Christ. Alors, vous allez me dire, mais comment ça? Eh bien, en vérité, ça, t'es sûr que c'est le cas? Alors, vu de notre côté, il dit, moi je souffre, oh, qu'est-ce que je peux faire pour que ça participe aux tiennes? Mais rien du tout, rien, strictement rien. De mon côté, ça ne marche pas. C'est de son côté que ça marche. Parce que lui, il a souffert pour participer aux miennes. Et Christ a souffert vous laissant un exemple. Il me laisse quelque chose. Donc, quand on dit souffrir avec Jésus ou sans Jésus, souffrir avec, ça vient de lui que c'est avec. Ça ne vient pas d'abord de moi. Si vous voulez, il ne faut pas vous dire, la sœur untel ou le frère untel, il est super, il a beaucoup de patience, d'expérience, ou beaucoup de grâce. Si c'est beaucoup de grâce, oui, parce que ça vient de Dieu. Mais il ne faut pas vous dire, lui, il a beaucoup, il est plus... Hein, et donc, il a, quand dans ses épreuves, même des épreuves terribles, il est capable de faire que ce soit avec Jésus. Vous voyez ? Mais non, ça ne marche pas comme ça. C'est Jésus qui est capable de faire que ce soit avec lui. Et je suis persuadé que c'est quelque chose que Farid confirme. C'est Jésus qui fait que c'est avec lui. Après, il y a notre part, bien entendu. Jésus, il a tout fait pour que ce soit avec lui. Que si je souffre, c'est avec lui. Que c'est une coparticipation. Vous voyez ? Il a tout fait pour. Après, évidemment, si moi, je me laisse aller à l'abattement, si j'écoute les voix qui nourrissent le mécontentement, enfin, etc., voire la révolte, je traverse la même souffrance, mais je ne suis même pas conscient que c'est avec lui. Et là, je souffre mal. la même souffrance, la même intensité, le même deuil ou la même douleur physique atroce ou le même handicap qui dure depuis 50 ans, la même, je peux être vécu mal ou être vécu bien. Alors, je le dis avec un immense respect quand je dis bien. Mais si c'est avec Jésus, il y a quelque chose. Alors, en tout cas, Pierre répète deux fois que c'est une grâce. On l'a lu tout à l'heure. Si vous souffrez par motif de conscience, c'est une grâce. Si vous souffrez en faisant le bien, c'est une grâce. Je vous ai dit que je prêcherai par obéissance. Hein. Ça fait drôle de dire que souffrir, c'est une grâce. Alors, attention, on n'a pas une théologie doloriste. Parce que le Nouveau Testament ne l'autorise pas, l'Ancien non plus d'ailleurs. La souffrance n'est pas une idole. La souffrance ne prend pas la place de Dieu. Ce n'est pas la souffrance qui me sanctifie, c'est Dieu. C'est le sang de Jésus qui me sanctifie. Et son esprit saint, sa parole. Ok, voilà. Et Dieu utilise principalement ses actes et ses paroles et sa présence, enfin, voilà, tout ce qu'il donne pour me sanctifier, me fortifier. Et parfois, il utilise la souffrance. Donc, j'allais dire, la souffrance, c'est comme un espèce d'outil annexe, mais qui occupe pas mal de place quand même, même dans le Nouveau Testament. Mais vous comprenez, la souffrance n'est pas mon Dieu, c'est pas elle qui me purifie du péché, c'est pas elle qui me rend directement par elle-même meilleur, c'est pas elle qui, etc., etc., etc. Donc, pas de dolorisme. Dolorisme, c'est-à-dire une doctrine dans laquelle la douleur serait la grâce principale, enfin, je ne sais pas comment dire. Cependant, c'est écrit que si on le vit avec Jésus et par motif de conscience envers Dieu, c'est-à-dire pour obéir à Dieu, tu souffres injustement, que ce soit au travail ou ailleurs. Là, on ne parle même pas d'être persécuté pour ta foi, hein, juste tu souffres injustement parce que, en fait, c'est quoi ? C'est que tu ne participes pas à quelque chose qui est mauvais. Alors, soit tu subis des injustices, soit il se pratique des choses pas bonnes et toi, tu ne participes pas. Et ça y est, tu es rejeté, tu es méprisé, tout ça. Voilà. Eh bien, c'est marqué que c'est une grâce. Alors, c'est difficile à comprendre. Et peut-être pas si difficile que ça. Parce qu'imagine l'inverse. Imagine que tu participes. Tous les copains du boulot, ils rigolent, ils se moquent de quelqu'un. Et ils l'humilient. Toi, tu ne participes pas. Toi, forcément, tu es meilleur que nous. Bon, ok, on connaît. Donc, tu ne participes pas, tu souffres. C'est une grâce. Bon, admettons. Maintenant, imaginons l'inverse. Tu participes. Après, tu rentres chez toi. Dieu, tu as honte que tu n'en peux plus. Parce que tu as participé juste pour ne pas te démarquer, pas te faire moquer, tout ça. Et tu as honte. Et tu as raison d'avoir honte. Parce que du péché, il faut avoir honte. Sauf s'il est déjà pardonné. Là, il ne faut plus. Voilà, donc tu rentres chez toi, tu te repens, enfin, tu prends conscience que ce n'était pas du tout une grâce de participer. Et donc, de ne pas souffrir, de ne pas se faire moquer, ce n'était pas du tout une grâce. C'est une chute. C'est une chute. Mais de ne pas participer et donc de souffrir, c'est une grâce. Si vous êtes, et donc, j'ai dit que c'est des souffrances où ce n'est même pas forcément des persécutions à cause de ma foi. Mais maintenant, oui, verset 14. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, là, ce n'est pas qu'on te moque parce que tu n'as pas participé, c'est juste parce que tu es chrétien, parce que tu es à lui. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Ça coûte, ça fait, c'est dur. Oui. C'est drôle. Alors, ceci dit, celui qui a écrit ça, c'est marqué de lui dans Actes 5, qu'avec les autres apôtres, ils se sont réjouis d'avoir été jugés dignes d'être battus pour le nom. Donc, il a pratiqué, lui. Quand il dit « vous êtes heureux », c'est pas une parole légère. Mais c'est surtout « vous êtes heureux » parce que c'est Jésus qui le dit. En fait, qui peut dire, sans se tromper, qui est heureux et qui ne l'est pas ? Mais Dieu. Si Dieu dit, vous êtes heureux, vous l'êtes. Vous êtes heureux car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Alors là, on peut vraiment parler de souffrir bien. L'Esprit de gloire est sur vous. On a vu tout à l'heure, c'est une grâce. Donc on souffre autrement déjà. Et là, il dit l'Esprit de gloire est sur vous. Que nul de vous ne souffre comme meurtrier, voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si c'est comme chrétien, qu'il n'en rougisse pas, qu'il glorifie plutôt Dieu à cause de ce nom. Donc ensuite, je vais au verset 19 du même chapitre 4. Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant le bien. Et voilà un des... Voilà un des endroits où c'est écrit « souffrir selon la volonté de Dieu ». Donc, on a lu au chapitre 1er « puisqu'il le faut ». On a lu au chapitre 3, je ne l'ai pas lu, tiens d'ailleurs. « Mieux vaut souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant le mal ». 3:17, je l'ai oublié. Et puis là, 4, verset 19, donc au moins trois fois, rien que dans Pierre, c'est marqué que quelquefois, c'est la volonté de Dieu. Alors non pas que de toute éternité, Dieu voulait que je souffre ça, c'est pas ça. Mais puisque je suis membre de Christ, disciple de Christ, sur cette terre-ci, qui elle-même souffre, Romains 8, qui elle-même souffre, puisque je suis sur cette terre-ci, ben, cette souffrance, elle fait partie de la volonté de Dieu pour moi. Un peu comme, si vous voulez, une maman qui envoie son petit enfant à l'école et il fait très froid dehors. Et elle sait très bien qu'il va avoir mal au bout des doigts. Ce n'est pas sa volonté qu'il se gèle les doigts. Mais c'est sa volonté qu'il s'éduque, qu'il mûrisse, qu'il apprenne à faire face, etc. Et donc, du coup, ça inclut qu'elle ne va pas dire « bon, ben, puisque c'est le cas, c'est bon, tu restes à la maison ». Elle ne va pas, entre guillemets, le dispenser. Voilà. D'accord ? Et puis, bien sûr, à moins que je ne le lise plus tard, le dernier, chapitre 5, chapitre 5, verset 10, je le lirai après. Donc, dans tout ce qu'on a lu, il apparaît par-ci, par-là, mais assez fort, que c'est avec Jésus. Et qu'on peut souffrir bien, parce que ça vient de lui. Hein. C'est Ésaïe qui écrit au chapitre 57, donc c'est l'Esprit de Dieu qui le dit. Oui, « Dis-moi, l'Éternel, j'habite les lieux élevés et la sainteté, mais aussi avec, je suis avec l'opprimé, celui qui est humilié dans son âme. » Voilà, donc le « avec » vient de lui. Et ce « avec », le fait qu'on souffre avec lui, ou plutôt en l'occurrence lui avec nous d'abord, ça concerne tout. Ça peut être, c'est pas seulement quand l'épreuve quand c'est transfiguré, vous voyez, quand on est tout en souffrant, qu'on est au troisième ciel. Même si l'épreuve est endurée péniblement et que vraiment ça coûte, on l'a bien vu que Jésus, ça lui a coûté. Mais je ne suis pas venu vous dire que si vous êtes vraiment dans la foi, vous allez souffrir, mais sans avoir mal. Que ça va être terrible, mais sans que ça vous coûte. Que vous allez être... vous comprenez, hein ? Non, on souffre vraiment. Que ce soit des problèmes ordinaires ou terribles, physiques ou moraux, momentanés ou durables. Des fois c'est long, Seigneur Jésus, que c'est long des fois. Voilà, en tout cas, on a vu hein, qu'il y a beaucoup de choses qu'on souffre uniquement parce qu'on est sur terre, que Dieu nous veut sur cette terre-ci. Donc c'est lié à la condition humaine, hein. Ça peut être le climat. S'il y a une violente grêle et qu'on est dehors, ben on souffre comme les autres. Voyez ? Ok, donc ou les injustices, des privations, etc. Voilà. Ensuite, on souffre pour la justice, on souffre injustement, mais ensuite aussi, il est parlé de souffrir pour le nom de Christ, pour le nom de Christ. C'est... Alors maintenant, je voudrais lire un verset que je vous supplie de garder. Luc 22, verset 28, une parole de Jésus. Et après, on ira à une autre parole de Jésus. Les deux qui m'ont le plus aidé dans ma vie, dans l'aspect souffrance de ma vie, les deux qui m'ont le plus aidé. Donc, Luc 22, 28. Jésus parle aux siens et il leur dit, vous êtes ceux qui ont persévéré avec moi dans mes épreuves. Et là, il n'est pas encore à Gethsémané, il n'est pas encore crucifié. Vous voyez, il parle de toute sa vie avant. Vous êtes de ceux qui ont persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est-à-dire qu'il est en train de leur dire que le fait qu'ils aient été avec lui a compté pour lui. Et cette parole, il suffit qu'elle rentre dans mon cœur et que dans mon cœur, elle suscite sa réciproque. Et que mon cœur dise à Jésus, toi, tu te tiens fidèlement avec moi dans mes épreuves. C'est une parole de Jésus qui crée dans mon cœur une réponse symétrique. Une réponse symétrique. Et puis, une autre des paroles qui m'a le plus aidé, je ne sais pas si je... Je vais quand même donner un témoignage. Oh, Jésus. Certains le savent. L'autre, il y a un peu plus d'un an, j'ai eu un décollement de la rétine, j'ai été opéré. Et bon, c'est une opération, tout ça, bon, voilà. C'est difficile, mais ce n'est pas non plus la fin du monde. Voilà. Mais pour maintenir la rétine en place, dans le cas que j'étais, ce n'est pas toujours comme ça, mais on injecte un gaz dans l'œil et qui pousse. Et le gaz, de par sa nature, il pousse surtout vers le haut. Il pousse bien vers en haut. Donc, le patient, il faut qu'il tienne sa rétine au plafond. C'est-à-dire... Il est comme ça. Il doit avoir le visage parallèle au sol. Voilà. Dans mon cas, c'était pour une opération 3 semaines, 1 mois. Mais au bout de 3 semaines, j'ai eu un autre décollement de la rétine. Et j'ai été réopéré. Évidemment, l'œil n'avait pas récupéré. Donc, on a remis un gaz, etc. Et allez, encore un mois encore un mois de plus. Et puis là, des douleurs. Deuxième opération, même endroit, rapide, des douleurs. Deuxième anesthésie, pas mal de malaise, tout ça. Ok. 2 ou 3 semaines après, la deuxième, j'ai eu un autre décollement, toujours au même œil, mais d'un autre côté encore. Le chirurgien, c'était un jeune, jeune par rapport à moi, hein. Et 62 ans, formidable. Un moment, il était plus malheureux que moi. Il m'a dit, monsieur, je ne veux plus le toucher, votre œil. Donc, troisième opération, au même œil. Je commençais les douleurs, je ne les décris plus. Et puis finalement, j'ai eu un quatrième décollement de la rétine, encore 3 semaines après. Pardon, là c'est purement humain. J'ai du mal en fait à en parler sans, parce qu'il y a, il y a une espèce d'empreinte quand même de la douleur. Et là, des nausées, j'aurais aimé pouvoir sortir de ma peau, rien que pour souffler un peu, de telles nausées. et puis des douleurs, mais alors incroyable. Et puis toujours penché, penché. Et donc ce dernier gaz, et c'était un gaz d'une autre nature qui a duré plus longtemps, presque 2 mois là, lui tout seul. Donc en tout, j'ai passé 5 mois comme ça. 4 mois et demi, 5 mois. Les 3 derniers jours et nuits. Avec un système pour que rester comme ça, le nez, pas tourner la tête de nuit. Donc je ne dormais pas. Donc ok. J'étais détruit. Détruit. Physiquement détruit. Avec les nausées, les douleurs, j'avais des antidouleurs, mais ils augmentaient les nausées, donc j'ai préféré encore avoir mal que la nausée. Bon, passons. Donc c'était horrible, horrible. À vrai dire, plus d'un an après, encore aujourd'hui, je ne peux pas dormir de ce côté, et presque tous les jours, j'ai encore mal un petit peu. Mais c'est rien du tout par rapport à... Ok, bon, c'était horrible. Alors, le témoignage, c'est pas tout ça. Quoique, je fais une petite parenthèse, j'ai raconté ça à une amie qui vit dans une église en Angleterre où il y a, j'allais dire, un niveau de foi assez exemplaire et beaucoup de miracles, tout ça. Donc je raconte ça, puis on a eu le temps, on mangeait ensemble, tout ça. Et puis après je m'excuse, je dis que je suis désolé de t'avoir étalé mes misères comme ça. Et elle me prend les mains, me dit, je te remercie. Parce que pour un peu, la manière dont on vit nous, on n'a plus le droit d'être malade. Et si quelqu'un souffre comme ça, il n'ose même pas le dire. Alors, c'est pas personne prêche qu'on n'a pas le droit, vous comprenez, mais on a vite fait de se créer des gênes et des malaises là où il ne faudrait pas. Je referme la parenthèse. Donc, le témoignage, c'est pas surtout d'avoir raconté mes douleurs. C'est ce que je vais dire maintenant. C'était un temps physiquement horrible. Et en même temps, un temps merveilleux avec Dieu. En même temps. C'est pas que j'ai eu des moments horribles et d'autres moments merveilleux, c'était en même temps. Je ne savais pas que ça existe. Ça ne m'étonne pas que Dieu soit capable de ça. Alors pourquoi? Eh bien, juste parce que j'étais seul avec Dieu. Je ne bougeais pas, hein. J'étais seul avec Dieu et il me parlait. De plein de choses. Entre autres, il m'a repris. J'ai été repris. Je ne cherchais pas de motif de quel péché pourrait expliquer que je souffre. Grâce à Dieu, j'en suis plus là. Mais parce qu'on ne cherche pas. Si c'est une correction, c'est à Dieu de le dire. Donc nous, on ne cherche pas. Je ne cherchais pas, mais malgré tout, j'ai vécu un repentir sur plusieurs choses, mais avec un bonheur immense. Et il me parlait, il m'a changé. Et je ne suis plus le même, en fait. J'ai été changé. J'ai été comblé dans mon cœur. Si vous voulez, je dois avouer qu'avant cette expérience, je n'aurais pas osé dire on peut souffrir bien. Sachant que moi aussi, j'ai des fois, en chrétien, j'ai souffert mal. Lors de il y a pas mal d'années en arrière, un de nos fils a eu une maladie de Crohn et il avait 12 ans et j'ai très très mal vécu ça. Très très mal, j'étais amer, j'étais limite rebelle, pas rebelle envers Dieu globalement, mais sur ce point-là, j'ai très mal vécu ça, j'ai pas souffert bien. Voilà. Ok. Voici la deuxième parole qui m'a le plus aidé, et j'arrive au bout quand même. Acte 9. Donc c'est encore une parole de Jésus, souvent les paroles de Jésus, un bout de phrase, ça contient le salut, ça contient le salut, ça contient la vie, les réponses, donc Paul il tombe de cheval, il se convertit, tout ça, Jésus se révèle à lui, et puis Jésus lui envoie Ananias. Il dit, va dans la rue, appeler la droite, un tel, voilà, ok. Ananias, il dit non, Seigneur, parce que j'ai entendu dire, celui-là, ce n'est pas un cadeau. Combien de mal il a fait aux saints, à Jérusalem, tout ça, donc non. Et c'est le verset, je ne sais plus lequel, mais je vais le retrouver. Voilà, 15. Et en plus, oui, Ananias, il a un bon argument. Il dit, il est venu exprès ici, il a des lettres de validation, il a des mandats de la part des souverains sacrificateurs de Jérusalem pour emprisonner tes enfants ici, tout ça. Et verset 15, mais le Seigneur lui dit. Voilà. Et quand c'est le Seigneur qui dit, mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est pour moi un instrument de choix afin de porter mon nom devant les nations et les rois et devant les fils d'Israël. Et voilà, c'est le verset 16 qui m'a soutenu, mais formidablement, depuis de très très longues années, et donc pas seulement pour ces dernières opérations, tout ça, mais là aussi particulièrement, voilà. Et je lui montrerai combien il faudra qu'il souffre pour mon nom. Et de toute cette phrase, je lui montrerai combien il faudra qu'il souffre pour mon nom. Il y a un mot, un seul mot, le plus petit, le premier, qui me sauve la vie. C'est je. Je lui montrerai. C'est-à-dire que c'est à lui de me parler de mes souffrances. C'est pas à moi de trouver des principes, d'avoir des formules qui me sortent d'affaires, vous voyez, genre Dieu veut toujours qu'on souffre, genre ça vient toujours du malin, genre je ne sais quoi, genre mais comme ça au moins tu pourras en aider d'autres, ce qui est d'une stupidité profonde et que la Bible ne dit pas, bon, etc., etc. C'est pas à moi de dire, c'est même pas aux autres de venir de me dire le sens de ma souffrance. Je peux poser des questions et je peux avoir de l'aide, mais c'est